il est 18h sur France Culture. Le journal, Antoine Maret, bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Nous reviendrons sur cette agression survenue ce matin à Strasbourg. Un homme d'une soixantaine d'années portant la kippa a été blessé au couteau. Il pourrait s'agir d'un acte antisémite. Vladimir Poutine en Crimée, le président russe y a réuni son conseil de sécurité près d'une semaine après les incidents survenus à la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. En Mauritanie, de très lourdes peines de prison pour les 13 militants anti-esclavagistes, 3 à 15 ans pour de soi-disant violences lors d'une manifestation. Mais la défense dénonce un procès. C'est politique. La politique de modération de Twitter montrait du doigt. Le réseau social sanctionne ceux qui ne respectent pas les droits à l'image pour les JO. Mais dans le même temps, des tweets homophobes, sexistes et antisémites ne sont pas supprimés. Une agression au couteau ce matin à Strasbourg. Un homme d'une soixantaine d'années a été blessé. Son agresseur a été interpellé. Il a des antécédents psychiatriques, mais il est également connu pour avoir commis une agression antisémite il y a 6 ans. Et l'histoire semble se répéter puisque l'homme qui l'a blessé ce matin portait la kippa. À Strasbourg, les précisions de Corinne Flugler de France Bleu Alsace.
L'agression s'est déroulée vers 11h ce matin, avenue des Vosges, dans un quartier où habitent de nombreuses familles juives. Alors qu'il rentrait des courses, ce Strasbourgeois de 62 ans a été frappé au thorax d'un coup de couteau. Il a réussi à se dégager et à se réfugier dans un bar tout proche. On a pu lui porter secours. Il est à l'hôpital. Aucun organe vital n'a été touché. Son agresseur est resté à proximité. Il a été rapidement interpellé par la police. Il a été placé en garde à vue. L'homme, né en Algérie il y a 44 ans, de confession musulmane, n'est pas un inconnu. En avril 2010, il avait blessé à coups de barre de fer et là aussi avec un couteau, un homme de 42 ans, parce qu'il portait une kippa. Il avait été déclaré pénalement irresponsable. Ce matin, l'agresseur aurait crié « Allahu Akbar » en frappant sa victime, mais les enquêteurs n'ont pas établi de lien avec le terrorisme islamiste. Il s'agirait plutôt ici d'un antisémitisme viscéral.
Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine en Crimée. Le président russe y a réuni son conseil de sécurité près d'une semaine après les incidents survenus à la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. Depuis le 8 août, la situation dans la péninsule Est est de plus en plus tendue. Et Vladimir Poutine maintient ses accusations. Kiev a tout simplement, selon lui, organisé des attentats en Crimée. À Moscou, les précisions de Caroline Gauger-Larsson.
Pour l'heure, aucune preuve ne permet d'affirmer que Kiev a eu pour projet d'attaquer des sites de la péninsule sous contrôle russe depuis maintenant 2 ans. Reste que la menace évoquée par Moscou est prise très au sérieux, à tel point que le président russe a décidé de tenir aujourd'hui en Crimée une réunion de son conseil de sécurité. Pour Vladimir Poutine, il est clair que l'Ukraine a organisé des attentats à défaut de pouvoir ou de vouloir, dit Poutine, respecter les accords de Minsk. Le président russe s'est dit persuadé lors de cette réunion que Kiev choisissait de mener des opérations de sabotage pour masquer ses propres défaillances politiques et économiques au peuple ukrainien. Vladimir Poutine a par ailleurs assuré les habitants de la Crimée d'un important renforcement de leur sécurité. Hier, les services de sécurité russes ont quant à eux affirmé détenir l'un des organisateurs des attaques survenues depuis le 8 août dernier. Il s'agirait d'un chef du renseignement ukrainien résidant dans la région de Zaporogie. Côté ukrainien, la version russe est toujours totalement réfutée.
En Mauritanie, de très lourdes peines de prison pour les 13 militants anti-esclavagistes. Ils étaient jugés depuis le début du mois par la cour criminelle de Nouakchott pour leur soi-disant implication dans une violente manifestation contre les autorités. Et ils ont donc été condamnés de 3 à 15 ans de prison ferme. La défense a boycotté les audiences. Elle dénonce un procès politique, Sébastien Berriot.
Oui, officiellement, les 13 militants étaient jugés par la cour criminelle de Nouakchott pour rébellion et usage de violence contre les pouvoirs publics. C'était à la fin du mois de juin, lors de l'évacuation d'un bidonville dans la capitale. Une voiture de police avait été brûlée et des membres des forces de sécurité blessés. Lors du procès, les 13 prévenus, tous membres de l'ONG anti-esclavagiste IRA, ont rejeté toute implication dans ces événements, affirmant avoir été victime de torture après leur arrestation. Pour protester contre ces traitements, le collectif d'avocats de la défense s'est retiré du procès, mais les audiences se sont poursuivies avec des avocats commis d'office pour aboutir donc à ces lourdes peines allant jusqu'à 15 ans de prison ferme. Les avocats de l'ONG se disent scandalisés, estimant que les prévenus étaient avant tout visés en tant que militant anti-esclavagiste. Maître Brahim Ould Ebeti dénonce le double discours des autorités mauritaniennes sur la question de l'esclavage.
Il y a tout un arsenal juridique, c'est-à-dire l'esclavage est qualifié de crime contre l'humanité. Un ensemble de lois ont été édictées, promulguées et des tribunaux créés. Et pourtant, tous ceux qui agissent contre l'esclavage, et particulièrement de la communauté négro-mauritanienne, eh bien, ceux-là ont été à coûte que coûte à les éliminer, à les empêcher d'agir et de contribuer à l'éradication de ce phénomène qui continue encore à miner notre société.
Éviter de parler de l'esclavage pour ne pas nuire à l'image de la Mauritanie. Certains avocats dénoncent également un procès politique. Le président de l'ONG, dont font partie les 13 prévenus, est aussi un opposant au président Ould Abdelaziz. Il était arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle. Le jugement de la Cour sonne donc comme une sorte de signal envoyé aux anti-esclavagistes dans un pays où officiellement l'esclavage a été aboli en 1980.
Merci Sébastien Berriot. MSF rapatrie son personnel présent dans le nord du Yémen. Les 6 hôpitaux concernés continuent de fonctionner, mais sans professionnels venus de l'étranger. C'est l'une des conséquences des bombardements de la coalition contre les rebelles. Ils ont touché lundi une structure de Médecins sans frontières faisant 19 morts. L'ONG est la seule à travailler encore dans le pays. Hassan Boussénine est chef de mission MSF au Yémen. Il évoque une décision difficile à prendre, mais nécessaire compte tenu de la situation sur place.
Du tout l'intention d'abandonner les limites à leur sort. Les soucis de nutrition, l'accès à la santé est bientôt inexistant. Il n'y a plus que 40% à peu près des hôpitaux qui fonctionnent, mais la plupart sont payants. Ils sont à critique peut-être 25% de la population. C'est inacceptable, on ne peut pas laisser une population comme ça. Nous, on a l'expertise et les moyens de le faire, donc on le fait, mais on est on ne peut pas se jeter sous les bombes. Il y a un minimum. On prend déjà assez de risques comme ça, c'est normal. On est souvent pris dans des tirs croisés dans les hôpitaux quand ils ne font pas en ville, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de gérer. Mais il y a une limite à ne pas dépasser. Je veux dire, déjà qu'on est les seuls, les derniers à rester dans ces zones, on ne veut pas non plus mourir en silence. Il faut qu'on rappelle à la communauté internationale que le respect du droit et de la vie des civils, c'est pas une option. Le respect du droit international, le respect du droit humanitaire, le respect de la vie des civils, c'est quand même pas une faveur à faire à MSF. C'est une obligation.
Propos recueillis par Viviane Le Guen. 18h07 sur France Culture, c'est une petite révolution aux États-Unis. Le ministère de la Justice annonce qu'il veut réduire le recours aux prisons privées. Un peu moins de 10% de la population carcérale américaine est dans un centre de détention privé géré par une entreprise, depuis la construction jusqu'à la surveillance. Le ministère se base sur un rapport expliquant que dans ces prisons, les violences sont plus nombreuses et le taux de réinsertion plus faible. Bonsoir Maxime Fayol.
Bonsoir.
En France, les prisons à 100% privées n'existent pas, mais le secteur privé gère quand même certains aspects de la détention depuis déjà de nombreuses années.
Et oui, ça existe depuis 1987. À l'époque, pour lutter contre la surpopulation carcérale, le garde des Sceaux lance la construction de 13 000 places de prison supplémentaires. Mais pour le faire le plus vite possible, Alain Chalandon va utiliser le secteur privé. À la base, il souhaite même une privatisation totale à l'américaine. Finalement, les fonctions de direction et de surveillance resteront dans le giron de l'État. Alors aujourd'hui, près de 30 ans après, quel bilan tire-t-on de cette gestion déléguée ? Eh bien, elle est plutôt bonne. Selon Jean-Michel Degène, c'est le secrétaire national du syndicat des directeurs pénitentiaires.
En tant que directeur, on est parfois soulagé dans le fonctionnement des établissements, d'avoir un certain nombre de fonctions où nous avons un interlocuteur unique qui est le chef d'unité privée, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, qui gère un certain nombre de questions techniques, des questions de maintenance, de l'alimentation ou autre. La plupart des collègues estiment que ça a quand même déchargé de fonctions d'intendance, mais qui sont très importantes à l'intérieur des prisons, pour pouvoir mieux se concentrer justement sur le suivi de la population pénale, sa prise en charge, la gestion des ressources humaines de la pénitentiaire elle-même, ça a permis au directeur d'être un peu moins pris par ses fonctions d'appui.
Alors cette gestion, elle existe dans environ 40% des prisons françaises, mais elle ne doit absolument pas toucher au cœur du métier de l'administration pénitentiaire, selon Gabriel Mouesca. Il est ancien directeur de l'Observatoire international des prisons.
C'est une question de philosophie aussi. Vous savez, confier la sanction au secteur privé, c'est quelque chose qui, pour moi, moralement, n'est pas acceptable. Sanctionner est légitime dans notre système social actuel, mais la sanction doit être assumée par l'État et non pas, j'allais dire, délégué au secteur privé qui n'est pas là pour faire du social. Et je trouve personnellement, moralement, insupportable l'idée que le secteur marchand, le secteur privé, soit lié à l'application d'une mesure de privation de liberté.
Mais le problème, il est aussi financier. Le recours au privé coûte 20% de plus que la gestion publique et jusqu'à 30% en cas de partenariat public-privé pour la construction des murs d'une prison. Un surcoût dénoncé par le Sénat, mais aussi par l'OIP et qui est estimé à plus de 5 milliards d'euros d'ici 2038.
Merci Maxime Fayolle. La politique de modération de Twitter montrait du doigt. De nombreux internautes dénoncent le double standard du réseau social. Des tweetos qui postent des photos des athlètes des JO voient leur compte suspendu car ils enfreignent les droits à l'image et les règles du Comité international olympique. Mais dans le même temps, des tweets homophobes, sexistes ou antisémites ne sont jamais supprimés. Bonsoir Lauriane Delanoë.
Bonsoir.
Face à cette polémique, le réseau social américain tente de se défendre.
Oui, Twitter montre sa bonne foi. Le réseau social a publié hier des chiffres sur ses actions contre l'extrémisme violent. Il annonce la fermeture ces 6 derniers mois de 235 000 comptes pour violation de la politique relative à la promotion du terrorisme. Ces comptes étaient tenus par des combattants ou des sympathisants de l'organisation État islamique. En tout, 360 000 comptes ont ainsi été suspendus en un an après les attentats en France, à Bruxelles, à Orlando ou en Turquie. Nous condamnons avec fermeté ces actes, poursuit le réseau sur son blog, et nous continuons à nous engager afin d'éliminer la promotion de la violence et du terrorisme sur notre plateforme. Mais cela ne suffit pas à convaincre les utilisateurs. En France, le mot dièse, le mot-clé modère comme Twitter a été utilisé plusieurs centaines de fois ces derniers jours. C'est une réaction à la suspension d'un compte très actif. L'internaute avait partagé une courte vidéo des Jeux Olympiques, sans détenir cependant les droits à l'image. Le CIO a très vite réagi et Twitter a donc suspendu son compte. Mais dans le même temps, le réseau ne supprime pas les messages de haine. Depuis 4 jours, on peut ainsi lire ce tweet, je cite, « Je tiens à donner mon soutien à la ou les personnes qui ont abattu un imam à New York avec des petites têtes de cochon. » Face à la passivité du réseau social, plusieurs personnalités ont donc choisi de supprimer elles-mêmes leur compte. L'actrice américaine Leslie Jones ou la chanteuse Normani Corday, par exemple. Toutes les deux sont noires. Elles avaient reçu une déferlante de messages racistes. Des journalistes aussi, une présentatrice de la télé suédoise, a signalé des tweets disant qu'elle était faite pour être violée. Twitter lui aurait répondu que ce n'était pas une infraction.
Paul Manafort, le président de la campagne présidentielle de Donald Trump, a démissionné de ses fonctions. C'est Donald Trump qui l'a annoncé lui-même. Manafort est visé par des accusations selon lesquelles il aurait reçu des paiements secrets pour ses conseils et services à l'ancien président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych. Retour à l'actualité française avec les chiffres du tourisme en France au deuxième trimestre qui viennent de tomber. Ils ne sont pas très bons. Sur un an, le nombre de nuitées dans les hébergements touristiques a ainsi chuté de 4,8%. Bonsoir Cécile Aspe.
Bonsoir.
Ces chiffres médiocres, on les doit en grande partie à la désaffection des clients étrangers après les attentats.
Et oui, pourtant le premier trimestre s'était plutôt mieux tenu avec une légère remontée du nombre de nuitées, comme on dit, d'1%. Les professionnels du tourisme reprenaient un peu espoir après le 13 novembre et la tuerie du Bataclan qui avait fait fuir les touristes. Mais le printemps n'a pas été à la hauteur de leurs attentes avec une baisse de près de 5%, vous le disiez, pour le deuxième trimestre de l'année. Et encore, le mois de juin a repris des couleurs grâce à l'Euro de football. Sinon, la chute aurait été plus sévère. D'après l'INSEE, le mauvais temps a également joué un rôle important, comme les ponts du mois de mai qui sont moins nombreux cette année. Et là, c'est la clientèle française qui a boudé les hôtels et autres gîtes. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre de nuitées des touristes étrangers a littéralement plongé de 10%. C'est quand même l'impact le plus important sur ces chiffres. Peu de chiffres encore pour cet été, mais on sait par exemple que les réservations aériennes des Britanniques ont chuté 23% de moins cette année à cause de l'attentat de Nice, mais auquel il faut ajouter le Brexit qui a entraîné la chute de la livre. Autre exemple, les châteaux de la Loire, moins 6% de fréquentation, moins 20% pour la clientèle japonaise, et puis moins 20% également pour les fêtes de Bayonne, sans oublier les annulations d'événements à venir comme la braderie de Lille en septembre. Et là, ce sera plusieurs millions de visiteurs qui ne viendront pas début septembre. Désormais, on est entré dans une logique de répétition avec un risque d'attentat qui s'installe au quotidien. Les professionnels du tourisme misent donc sur la clientèle française. Elle représente la moitié de la fréquentation touristique et surtout, elle est particulièrement stable.
Merci Cécile Aspe. Vous partez pour de nouvelles aventures professionnelles après 4 années à la direction adjointe de la rédaction de France Culture. On te souhaite, Cécile, beaucoup de bonheur pour la suite.
Merci.
Demain, le temps sera mitigé sur une bonne partie du pays. Alternance de nuages, d'éclaircies et de pluie presque partout, à l'exception du sud qui profitera d'un franc soleil. Température médiocre pour la saison, 16 à Cherbourg, 24 à Paris, 29 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 22h avec Sébastien Berriot.